Eh bien, rebonsoir. Et en cette deuxième partie de mission, nous avons le plaisir et la chance de recevoir Marc Vuillard. Marc Vuillard, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre. Une actualité importante, mais avant tout, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes donc graphiste de formation et vous êtes entré dans l'écriture par la poésie.
Oui,
avec un premier recueil qui s'appelait La Mer. Alors on est à Grasse, mais La Mer c'était L'A-M-E-R. Un premier roman en 80. Et c'est aussi l'année où vous rassemblez vos premières nouvelles. Un recueil Né pour perdre. Depuis, beaucoup de romans, d'innombrables nouvelles, où vous nous régalez avec des destins tordus, des destins de losers, des drames de la vie ordinaire, en une scansion qui rappelle les rythmes de vos musiques préférées, puisque vous avez beaucoup œuvré dans la musique aussi, le blues, le jazz, et on ne va pas oublier le rock. Des albums de bande dessinée aussi, des albums illustrés, pardon, en collaboration avec des gens comme Joe Pinelli, Jean-Christophe Chosy. On va citer Rouge et ma couleur. Et plus récemment, le très très bel album La guitare de Baudidley, dans l'excellente collection Rivage Casterman. Alors, en collaboration, il y a aussi cet automne, je ne sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir, Bye Bye Blackbird. Un coffret illustré de deux CD et illustré par Joe Pinelli. On va l'évoquer en fin d'émission. Mais au départ, je voudrais que l'on parle ensemble de troisième recueil de nouvelles que vous nous avez gentiment concocté avec Jean-Bernard Pouy. Donc le titre en est Zigzag et c'est le troisième après Ping Pong et Tohu Bohu. Est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs, le principe de ces recueils de nouvelles ?
Dans ce recueil-ci, qui s'intitule donc Zigzag, nous avons adopté une contrainte différente des deux précédents livres écrits en commun. Là, cette fois-ci, j'ai dressé la liste de mes 10 thèmes favoris, ceux qui reviennent le plus souvent dans mes livres, et Jean-Bernard Pouy a fait la même chose, et nous avons échangé nos deux listes. J'ai donc écrit 10 nouvelles sur des thèmes de Pouy, et lui a fait de même avec les miens.
Voilà, alors et c'est vrai que c'est vos thèmes favoris parce que je pense que si on tapait chacun des mots qui ont servi à concocter ces nouvelles, je pense qu'on tomberait en googlisant, je pense qu'on tomberait d'un côté sur Marc Vuillard avec vos thèmes et de l'autre côté avec Jean-Bernard Pouy parce que cyclisme, patate, Bretagne pour Jean-Bernard Pouy et quand on met en face les mots Barbès, football, les Halles, drogue, on tombe plutôt dans votre univers littéraire.
Oui, c'est vrai.
Et qu'est-ce que vous avez voulu quand vous étiez en train de concocter ces nouvelles, donc c'était essayer de pénétrer l'univers littéraire de l'autre par le biais de ses thèmes.
Oui, d'une part et non d'autre part. En fait, il s'agit oui de pénétrer l'univers de quelqu'un qu'on connaît bien, mais qui a un univers complètement différent du sien, d'une autre plutôt. Et malgré tout, de conserver une sorte d'intégrité, si je puis dire, de conserver l'image qui s'attache à ma façon de faire, à ma façon d'écrire. Donc, en fait, c'est pas c'est facile et pas facile, quoi. C'est facile parce qu'on nous donne des thèmes tout faits. C'est pas facile parce que rester soi-même avec un thème dont on est très loin, c'est pas évident. C'est plus difficile, en fait, que ce que nous avions adopté dans les deux livres précédents où les contraintes étaient d'ordre plus technique. Là, c'est sur le fond et le fond, c'est toujours plus difficile.
Oui, puisque il faut que vous parliez par exemple du cyclisme. Alors je dois dire que vous en sortez très bien l'un et l'autre pour notre plus grand plaisir, parce que vous utilisez vraiment tous les codes du roman noir et vous excellez dans ces formats courts, l'un comme l'autre. Et ça commence très fort d'ailleurs par le thème cycliste. Et comme vous dites, cycliste, c'est un des thèmes de Jean-Bernard Pouy, mais vous conservez votre intégrité. Ça commence par un très beau, je dirais comme un talking blues un petit peu. Et pour finir sur une note très sarcastique, quand je dis quand même que vous essayez de pénétrer, quand même de mettre en miroir l'univers de l'autre, c'est par rapport à cette très belle nouvelle qui s'appelle Gabriel roule sa caisse, où en fait vous utilisez vos thèmes, les petits dealers, l'univers de banlieue, et puis on y retrouve le personnage du poulpe, Gabriel le couvreur de Jean-Bernard Pouy.
Oui, en plus, c'était un clin d'œil que j'adressais à Pouy, parce que quand il a commencé sa collection du Poulpe, Il m'avait contacté, bon, pas dans les premiers, mais je dirais dans la seconde vague, quoi, enfin au début. Et sur le coup, j'avais dit oui, c'est une bonne idée, pas mal, tout. Bon, et il m'avait envoyé la Bible, puisqu'en fait, le poulpe s'est écrit avec une Bible comme à la télévision. Et quand j'ai reçu la Bible, je l'ai trouvée vraiment contraignante ah, oui. Sur l'espace d'un roman. Ça, une Bible comme ça, ça va bien si c'est pour écrire une nouvelle de 20 pages, mais sur l'espace d'un roman, ça m'a paru extrêmement contraignant, et j'ai eu l'impression de me retrouver un petit peu dans l'esprit des scénarios que j'avais pu écrire pour la télévision précédemment. Donc j'ai inversé mon idée première et j'ai dit après que je ne ferais pas de poulpe. Alors là, c'est une façon amusante de revenir dans la bande du poulpe. Quoi, bon, finalement, j'aurais écrit moi aussi un petit poulpe.
Voilà, ce sera voilà. Un petit poulpe, Gabriel qui roule sa caisse,
voilà,
mais
voilà.
Dans votre univers à vous quand même.
Oui, j'ai essayé. Oui.
Alors, on a l'impression quand même que l'un et l'autre, vous êtes bien amusés à surprendre celui qui vous avait donné le thème, mais vous nous surprenez beaucoup par des chutes dignes des meilleurs novelistes. Et puis, il y a toujours, en filigrane, enfin toujours, pas tout le temps, mais toujours beaucoup d'humour. Et comme souvent dans votre univers, l'humour est quand même souvent très désespéré.
Oui, mais moi je trouve dans les livres que nous écrivons à quatre mains, dans la mesure où on est plus dans la contrainte, certes, mais dans le jeu surtout.
Oui.
Donc j'essaie de ne pas plomber le livre avec des nouvelles justement extrêmement désespérées ou désespérantes. Et je ne cherche pas effectivement le drame ou de donner des leçons, quoi que ce soit. Donc c'est plutôt il y a de l'humour, oui.
Voilà, c'est un humour un petit peu caustique.
Dans tout ça. Mais je suis aussi tiré vers l'humour par la personnalité de Pouy, parce que je sais qu'il va pas sombrer, lui, dans le désespoir, comme vous savez. Et donc je vais un petit peu vers lui, c'est le pas que je fais vers lui.
Et lui fait aussi un pas vers vous, parce que quand il parle de cet immigré, ce Ghanéen qui se lave parce qu'il a une odeur particulière depuis qu'il est en France, cette nouvelle est très très noire et bien loin de l'humour dont nous habitue Jean-Bernard Pouy d'habitude.
Oui, tout à fait. Mais il a fait quelques livres, en fait, qui sont des livres débarrassés d'humour. Je pense notamment à Fratelli, là, qu'il ressort.
Oui, avec un de vos autres deux complices, avec
Voilà, avec Joe Pinelli, dont vous parliez tout à l'heure, pour Bye Bye Blackbird, qui vient juste de sortir. Et c'est un livre qui est un livre très sérieux, comme on dit.
Très sérieux, très noir.
J'ai le souvenir d'un ou deux autres, peut-être plus anciens. De temps en temps, ça lui prend comme ça. Mais sinon, il a plutôt un humour pataphysicien, quoi.
Voilà. Autre actualité, on parlait d'exercice de style, une novella qui m'a enchantée, enfin pas que moi d'ailleurs,
moi aussi,
parce que Jacques s'est vraiment régalé. Un court récit, donc une novella, c'est paru chez Biro Éditeur. C'est un titre qui date son récit. Ça s'appelle Sharon Tate ne verra pas Altamont. Donc, novella, pardon, illustrée par des photos et des documents. Et là, on part l'année 69. C'est vous qui avez choisi cette époque ?
Oui, en fait, la collection qu'a lancée Biro et qui s'intitule Les Sentiers du Crime est une collection de docu-fiction. Donc, il s'agit de s'approprier une période ou un fait précis de l'histoire ou un fait divers et d'insuffler dedans de la fiction pour le transformer en une histoire fictionnelle, si on peut dire. Donc, en fait, je me suis un petit peu posé des questions. Puis, depuis longtemps, je voulais faire quelque chose sur la mort, l'assassinat de Sharon Tate et de ses amis. Et quand j'ai voulu m'attaquer à ça, je me suis rendu compte que c'était énorme, qu'en fait, la famille Manson avait fait l'objet d'un nombre de livres conséquents, que ça se limitait pas à 5 morts, mais qu'il y avait toute une pléiade d'assassinats, 35 en fait, autour de la famille Manson. Et je me suis dit que j'allais pas m'en sortir. Alors en fait, comme je suis aussi amateur de musique et de rock notamment, j'avais un souvenir très précis aussi du festival d'Altamont organisé par les Rolling Stones pour en quelque sorte faire leur petit Woodstock à eux. Et j'ai décidé de traiter ces deux deux événements à l'aide d'une jeune fille qui est donc, elle, Cheryl, complètement fictionnelle. C'est un personnage inventé qui traverse les deux histoires et qui traverse en quelque sorte l'année 69, dont Altamont sonne le glas de tous les espoirs hippies, des concerts gratuits et de tout ce qui traînait à l'époque au plan utopique. Hein.
Alors, puisque vous adorez la musique, d'ailleurs, la novella commence par la mort presque, enfin, même très suspecte de Brian Jones dans sa piscine.
Ouais, c'était la même année, oui.
Voilà, c'était la même année. Et puis, donc, ce personnage fictionnel qui relie magnifiquement, enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé la narration et la fiction autour des deux événements, qui relie Sharon Tate et l'assassinat de Meredith au festival, au concert d'Altamont. C'est Shirley. Alors, Shirley, elle résume à elle toute seule un personnage de 69, une jeune fille un peu paumée de 69, qui a envie de vivre ce flower power et qui sombre dans la drogue, dans des idéologies bizarres comme la secte de Manson. Et ça peut pas finir bien pour elle, quoi.
Bah non, en fait, elle fait partie de tous ces jeunes qui ont été marqués par l'avènement du hippisme, pardon, de l'amour universel, de l'amour en groupe, du travail qu'il fallait refuser, des drogues qu'il fallait expérimenter, du rock'n'roll qu'il fallait écouter, etc., etc. Donc, effectivement, il y a des gens, pas tous heureusement, mais il y a quelques personnes comme ça, qui se sont laissés porter, qui se sont laissés entraîner et qui ont été écrasés par ce mouvement. Cela dit, bon, ils n'étaient pas si nombreux que ça à faire partie de l'équipe Manson. Heureusement, il n'y en a pas eu des centaines comme elle. Mais malgré tout, la famille Manson a éliminé, alors que Manson était en prison déjà, tous les gens qui pouvaient poser des problèmes avec leurs témoignages, liés donc soit au meurtre du couple LaBianca, soit au meurtre de Sharon Tate et de ses amis.
Alors, au départ, quand on prend ce récit, on vous connaît, on connaît votre univers, on sait à quel point vous aimez la musique et le rock. Donc on se dit, ça va être un récit empreint de nostalgie. Ben, pas vraiment, en fait, c'est plutôt un regard plutôt critique et acéré sur les utopies de cette époque, quand même, comme vous le disiez, pour ce personnage de Shirley.
Et je suis assez nostalgique concernant la musique, parce que c'est vrai que c'est une époque formidable où on a pu entendre des gens comme Jimi Hendrix, Janis Joplin, Creedence Clearwater, les Doors, tout ça. Bon, c'est quand même une époque très très forte en musique et que je réécoute encore maintenant. Oui, alors vis-à-vis de cette époque, j'ai une certaine nostalgie. Musical. Par contre, au plan, des utopies. Bon, ça, je suis pas hyper critique, mais ça fait un petit peu sourire, quoi.
C'était
quand même le fromage de chèvre et la flûte indienne, quoi.
Ouais.
Et je n'ai pas parlé du macramé.
Non, effectivement, oui, non, ça, ce sera pour le prochain stage. Un très très beau roman, un très beau moment, pardon, j'ai la gorge qui est prise de cette novella, c'est le concert d'Altamont, où vous nous le faites vivre aussi bien de façon microscopique, en focusant sur un personnage, Shirley, Meredith, un chanteur sur scène, et puis au niveau un peu, on va dire, macrocosmique, sur l'ambiance du festival. On dirait vraiment que vous y étiez.
C'est-à-dire que sur ce festival-là, bon, d'une part, il y a pas mal de gens qui ont écrit à l'époque. Il y a eu pas mal de papiers, notamment dans Rolling Stone, qui étaient pour le festival avant et finalement qui étaient contre après parce qu'ils n'ont pas supporté l'attitude assez hautaine des Rolling Stones qui ont quand même vu quelqu'un massacré à leurs pieds. Et qu'est-ce que je disais ? C'était quoi la question ?
Vous étiez en train de nous parler de l'attitude des chanteurs, et moi je vous demandais carrément si vous étiez à ce festival, à ce concert.
Oui, je n'y étais pas, mais enfin, ce que je disais, c'est que oui, j'ai pu m'appuyer quand même
sur une
presse abondante de l'époque, et puis surtout du film des frères Mel, Gimme Shelter, qui est en vente en DVD encore actuellement. Et qui nous montre, c'est un film monté, donc on nous montre pas tout, mais quand même, il n'édulcore pas tous les moments où, notamment quand Grace Lack et le Grateful Dead sont montés sur scène, le matraquage du chanteur, les cannes de billard qui volaient, et puis surtout la mort de Meredith Hunter en direct quand même.
En parce direct, qu'en fait, oui.
Quand Alan Taro, le Hells Angel, est passé en jugement parce qu'il était accusé d'avoir tué ce jeune noir, ça n'a pas été prouvé puisqu'il a finalement
il a été acquitté,
mais quand même à charge il y avait le film. Alors le problème c'est qu'en fait dans le film il est très difficile puisqu'il y avait tout un groupe de Hells Angels qui tapait et qui poignardait Meredith Hunter de savoir qui avait porté le coup fatal. C'est pour ça qu'il a été gracié. Mais en fait c'est un film assez exceptionnel où on voit un meurtre en direct quand même.
Oui, et donc on voit c'est là aussi où il a été gracié. C'est un des documents qui est montré dans ce roman, dans ce livre. C'est qu'il porte apparemment un pistolet. Donc c'est pour ça que Alan Passereau a été acquitté pour légitime défense, en fait.
Oui, oui. On ne sait pas trop en fait ce qui s'est passé avec ce pistolet ou ce revolver, je ne sais plus. En tout cas, il l'avait à bout de bras. Et au moment où il a été matraqué, roulé à terre, poignardé, etc., il a réussi à dire avant de mourir qu'il ne voulait pas, il voulait pas de mal au chanteur, mais enfin il devait être quand même sérieusement allumé. Alors évidemment, moi je raconte une autre histoire, hein,
des intentions. Vous avez brodé sur la réalité.
Voilà. Mais dans la réalité, on ne sait pas trop en fait ce qui lui est passé par la tête à Meredith quand il s'est mis à descendre avec son galurin sur la tête en direction de la Seine. Alors tout ceci s'explique aussi par la configuration du festival où il a fallu remonter très rapidement la Seine et tout le matériel parce qu'il était prévu à une centaine de kilomètres plus bas en Californie et il a eu du mal à se monter ce festival. Et donc Dardar, toutes les équipes techniques ont remonté le matériel à Altamont, donc, qui est un circuit de stock-car. Et la scène ne faisait qu'un mètre de hauteur. Un mètre.
Oui,
donc, c'est-à-dire n'importe qui pouvait monter sur scène, alors personne s'en est privé, j'aime autant vous le dire. Donc, c'était très inquiétant, effectivement. Enfin, ça nécessitait pas de tuer un homme, quand même. Hein.
Eh oui, mais apparemment, ce que j'ai appris, moi, c'est qu'il y a aussi eu d'autres morts pour d'autres événements au niveau de ce concert. Moi, ce que je voudrais dire, parce que malheureusement, le temps file et qu'il nous reste juste une minute, c'est que ce qui m'a beaucoup impressionné dans ce récit, c'est la façon... je dirais avec une écriture entre guillemets calme dont commence ce récit et comment au fur et à mesure que les moments du concert arrivent l'écriture prend vraiment un rythme rock'n'roll. Ça c'est vraiment une très très belle réussite de ce récit.
Alors
on a juste encore une minute. Je voulais passer un morceau de musique dont je sais que vous êtes fan, mais je préfère qu'on dise un mot de Bye Bye Blackbird. Donc là, on revient dans le jazz très classique, puisque oui. Bird, Charlie Parker, ça vient de sortir, je crois.
Oui, ça vient de sortir aux éditions Nocturnes. Bon, c'est une histoire simple. J'ai écrit toute une suite de poèmes autour de New York, le jazz, la nuit, les clubs, etc. Et notamment, ça fait référence aux jazzmen des années 60.
Voilà.
Donc c'est le début, enfin c'est presque le début, c'est dans les années 50 du bebop, et on voit déjà apparaître des gens comme Miles Davis et John Coltrane. Donc j'ai écrit ces textes, je les ai proposés à Joe Pinelli, qui s'est dit qu'il était tout à fait partant pour faire des illustrations qui courent tout le long des textes. Donc les illustrations et les textes se renvoient la balle, si je puis dire. Et on a composé avec l'éditeur deux disques qui reprennent des morceaux qui étaient dans toutes les oreilles à New York dans ces années-là, à la fin des années 50, avec les gens que je vous citais, Ornette Coleman, les Jazz Messengers, Art Blakey, etc.
Eh bien, je remercie beaucoup Marc Villard. Donc, on va rappeler sur notre site les références de ces trois ouvrages. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci,
au revoir, Marc
bonne
Villard.
Soirée, au revoir
à tous. Bonsoir à tous. À bientôt pour une prochaine émission très noire.